VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du jeudi 28 juillet 2016. Au sommaire ce soir.
Sommet Côte d'Ivoire-Burkina Faso, la lutte contre le terrorisme a dominé les discussions aujourd'hui à Yamoussoukro et demain ce sera le tête-à-tête présidentiel.
Au Gabon, la Haute Cour rejette les recours de l'opposition à la candidature d'Ali Bongo Ondimba qui reste ainsi dans la course à la présidence.
Le gouvernement sénégalais veut retirer les enfants de la rue avec plus de 50 000 talibés rien que pour la région de Dakar.
Au Zimbabwe, le président Mugabe met ses menaces à exécution. Deux leaders des anciens combattants sont mis aux arrêts.
La convention démocrate se termine ce soir à Philadelphie par le discours principal, celui de la candidate Hillary Clinton.
Vraiment, c'était un discours plein de passion, un discours qu'il a utilisé pour défendre sa gestion et vanter les qualités de la candidate qu'il souhaite lui succéder.
Parlant du discours de Barack Obama hier soir à la convention. D'abord le journal.
Première visite officielle en Côte d'Ivoire du président burkinabé Rochmark Christian Kabore pour la cinquième édition du traité de l'amitié et de la coopération. Ce sommet annuel ivoiro-burkinabé réunit chefs d'État et membres du gouvernement des deux pays. Aujourd'hui, c'est la lutte antiterroriste qui a prévalu. Anastasie Tudiech.
Dès l'ouverture du sommet qui se tient à Yamoussoukro, le premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan insistait sur la nécessité pour les deux pays de rester vigilants face à la menace terroriste et trouver la réponse adaptée. Il a salué la coopération ivoiro-burkinabé qu'il a qualifiée d'exemplaire après les attaques de Ouagadougou puis de Grand Bassam. Par ailleurs, une dizaine d'accords doivent être signés, la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la ligne de chemin de fer entre les deux pays et la fourniture d'électricité au Burkina seront au centre des discussions qui se termineront demain par un sommet réunissant les deux chefs d'État.
Toujours en Côte d'Ivoire, la grève est suspendue et l'université Félix Fouette-Boigny d'Abidjan reprend les cours après de violentes manifestations qui ont paralysé l'institution. Les cours ont donc repris afin d'ouvrir des négociations avec le gouvernement. Le 18 juillet, des affrontements avaient éclaté entre policiers et étudiants, faisant plusieurs blessés et une soixantaine d'arrestations.
Gabon, la Cour constitutionnelle a rejeté les recours contre la candidature du chef de l'État Ali Bongo Ondimba à l'élection présidentielle du 27 août. Ces recours ont été introduits par trois opposants. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guy Zumba Ndama, et l'ancien ministre Pierre Claver Maganga Moussavou, qui accusait le président sortant d'avoir falsifié son état civil. L'élection présidentielle du Gabon est un scrutin à un seul tour et Ali Bongo Ondimba est donné en tête.
Au Sénégal, plusieurs organisations de défense des droits humains saluent la mesure du gouvernement quant au retrait de la rue des enfants. Toutefois, elles encouragent Dakar à ouvrir des enquêtes pour châtier les auteurs de l'exploitation de ces mineurs. Éric Manirakiza.
L'opération de retrait des enfants des rues a débuté depuis fin juin pour éliminer la mendicité. Plusieurs centaines d'enfants, dont des talibés, disciples d'écoles coraniques, ont été placés dans un centre d'accueil. Par la suite, le gouvernement les a remis à leurs parents ou des tuteurs, dont des maîtres coraniques. Human Rights Watch et un collectif de 40 organisations locales ont exhorté le gouvernement à mener des enquêtes et à engager des poursuites contre des maîtres coraniques, auteurs de violations des droits de l'enfant. Ces organisations demandent aussi une réglementation des écoles coraniques. La région de Dakar compte plus de 1000 dara ou écoles coraniques avec près de 55 000 talibés, dont plus de 30 000 pratiquent la mendicité, selon une enquête officielle de 2014. Une loi contre la mendicité de 2005, qui n'a pas été appliquée, prévoit pourtant 2 à 5 ans de prison et une amende allant de 500 000 francs CFA à 2 millions de francs CFA.
Cap-Vert, le président Jorge Carlos Fonseca est candidat à sa propre succession au scrutin prévu le 2 octobre. C'est ce qu'il a lui-même annoncé hier soir.
Confronté à un mouvement de contestation inédit, Robert Mugabe a mis ses menaces à exécution. Deux responsables de l'association des anciens combattants du Zimbabwe, qui avaient osé critiquer le président au pouvoir depuis 36 ans, ont été arrêtés. Jacques Aristide.
Douglas Maïa, le porte-parole de l'Association des anciens combattants de la guerre de libération, a été appréhendé hier soir à Harare, d'après le collectif avocat du Zimbabwe pour les droits de l'homme. Le secrétaire général de l'association, Victor Matemadanda, a lui aussi été interpellé à Gokwe, dans le nord-ouest du pays, et son sort est inconnu pour le moment, toujours selon ce collectif. La police s'est refusée à tout commentaire. Les vétérans de la guerre d'indépendance, qui étaient des piliers du régime, ont publié la semaine dernière une déclaration choc dénonçant l'attitude dictatoriale de M. Mugabe. Ils jugent que son parti, la ZANU-PF, a lamentablement échoué à résoudre les problèmes économiques du pays. Ils ont prévenu qu'ils ne soutiendront pas M. Mugabe lors de la présidentielle de 2018, à laquelle ils comptent se représenter. Déjà en proie à une contestation de la société civile, le président Mugabe avait prévenu hier les anciens combattants et les manifestants contre son régime que la punition sera sévère.
Le Soudan du Sud est au bord du gouffre, selon le secrétaire général de l'ONU. Ban Ki-moon exhorte les dirigeants sud-soudanais à s'engager en faveur de la paix. L'ONU a recensé au moins 120 cas de viol depuis la recrudescence des affrontements il y a 3 semaines à Djouba entre l'armée gouvernementale et les partisans de l'ex-chef rebelle Riek Machar.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au lendemain du limogeage de plus de 2400 militaires en Turquie, le Conseil suprême de l'armée s'est réuni à la résidence du Premier ministre Binali Yildirim pour envisager la nomination de leurs remplaçants à pourvoir les postes de 149 généraux et amiraux, donc près de la moitié du corps. Ils sont soupçonnés d'avoir pris part au coup d'État manqué du 15 juillet. La purge lancée depuis lors par le président Recep Tayyip Erdogan frappe de manière tout aussi implacable les médias turcs. Rien à filtrer de la rencontre qui a duré 5 heures entre M. Yildirim et ce qu'il reste de la hiérarchie militaire turque.
Le réseau Al-Qaïda a préparé le terrain ce jeudi à une éventuelle rupture avec le front Al-Nusra sur fond de spéculations sur Internet quant à une possible annonce en ce sens sur sa branche en Syrie. Depuis quelques jours, les spéculations vont bon train sur Internet avec des sympathisants, des djihadistes et des observateurs avançant cette possible annonce par Al-Nusra qu'il coupait les liens avec le réseau fondé par Oussama Ben Laden. Al-Nusra est la cible depuis septembre 2015 de bombardements de la Russie, principal allié du président syrien.
En Pologne, plusieurs milliers de fidèles ont accueilli ce matin le pape François au sanctuaire marial de Jasna Góra à Częstochowa, dans le sud du pays. Claire Morin-Gibourg.
Arrivé hier en Pologne, le pape s'est offert son premier bain de foule. Petite frayeur pour les fidèles, il a trébuché en allant vers l'hôtel, mais il s'est relevé immédiatement. Le souverain pontife, venu à Cracovie à l'occasion des JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, est allé au sanctuaire de Jasna Góra pour prier devant une icône de la Madone Noire, particulièrement vénérée en Pologne et réputée miraculeuse. Il a ensuite présidé une messe en plein air devant une foule composée essentiellement de Polonais. Le pape, qui est apparu serein, a invité les croyants à aller au-delà des torts et des blessures du passé, faisant allusion aux tensions que connaît encore la société polonaise entre les conservateurs et les héritiers de l'ancien régime communiste. La Pologne a mobilisé plus de 40 000 hommes pour protéger le pape et des centaines de milliers de jeunes pèlerins sont venus au JMJ qui doivent s'achever le 31 juillet.
Donald Trump a essayé de calmer la tempête médiatique provoquée par ses propos invitant la Russie à retrouver 30 000 emails effacés par Hillary Clinton, affirmant qu'il était sarcastique en faisant ses déclarations. Évidemment, j'étais sarcastique, a déclaré le candidat républicain à la présidence américaine sur Fox News après ses propos qui lui avaient valu d'être accusé par la campagne d'Hillary Clinton d'encourager l'espionnage étranger. L'ancien directeur de la CIA, Leon Panetta, a dénoncé des propos irresponsables et inimaginables mercredi soir à la Convention démocrate à Philadelphie.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé l'Indonésie à ne pas exécuter 14 condamnés à mort pour trafic de drogue et a décrété un moratoire sur la peine capitale. Dans un communiqué cité par l'AFP, M. Ban rappelle l'opposition des Nations Unies à la peine de mort en toutes circonstances. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Maintenant, place à notre segment spécial sur la convention du Parti démocrate.
présidentielle américaine, quatrième jour de la convention du Parti démocrate. C'est le grand final ce soir. Sur place, on retrouve Tatiana Mosso, notre envoyée spéciale à Philadelphie. Alors Tatiana, quel est le programme aujourd'hui ?
Effectivement, si certains n'étaient toujours pas convaincus du soutien sans faille de Barack Obama à son ancienne secrétaire d'État, ce matin, il semblerait qu'il y ait eu du progrès. Le programme s'est mis en place dès 10 heures ce matin. Certains délégués que nous avons croisés avant d'entrer dans leur caucus ne parlaient que du discours hier soir du président américain apporté à son ancienne secrétaire d'État. Dès 10 heures, ils étaient déjà plusieurs délégués et représentants démocrates à échanger sur la campagne qui va véritablement commencer désormais. Mais forcément, l'ancienne secrétaire d'État doit définitivement convaincre. Avant elle, il y aura Chelsea Clinton qui montera sur la scène du Wells Fargo ce soir. Puis Hillary Clinton aura l'occasion de convaincre justement les démocrates et au-delà, puisqu'elle prononcera son discours pour accepter l'investiture à la candidature pour l'élection présidentielle.
Alors Tatiana, hein, beaucoup de délégations africaines à cette convention.
Tout à fait, cette convention démocrate a drainé son lot d'observateurs extérieurs et parmi eux, vous l'avez dit, des représentants africains issus de l'opposition principalement. Alors de la Guinée au Sénégal en passant par la RDC ou encore le Cameroun, l'intérêt s'est surtout porté sur la capacité des démocrates à désigner un chef de file pour la présidentielle, de voir comment tous les acteurs s'unissent derrière ce même candidat et comment ils appellent à une victoire en groupe. Cela a beaucoup marqué les différents interlocuteurs africains auxquels nous avons parlé. Un intérêt aussi pour ce passage de relais entre Barack Obama et sa rivale d'hier, même si ils sont tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas faire de copier-coller entre les pays africains, les différents pays africains et les États-Unis. Ils souhaitent tout de même que le modèle puisse inspirer leurs pays respectifs.
Tatiana Mosso, notre envoyée spéciale à Philadelphie. Merci.
Place maintenant à Idrissa Sédoudia, l'autre envoyé spécial de VO Afrique à Philadelphie. Salut Idrissa.
Salut Gabi.
Alors, Barack Obama, sa prestation hier soir ?
Bon, il a fait carton. Les présidents qui, en fin de mandat, se présentent à la convention de leur parti font souvent un discours mélangé de nostalgie, de réflexion sur leur bilan. Mais ça s'arrête là. Tandis que dans le cas de Barack Obama, vraiment, c'était un discours plein de passion, un discours qu'il a utilisé pour défendre sa gestion et vanter les qualités de la candidate qu'il souhaite lui succéder. Et tout ça en se défendant contre les déclarations de ce qu'il a appelé ou ce qu'on pourrait considérer comme les oiseaux de mauvais augure il y a une semaine à Cleveland, dans l'Ohio.
Idrissa, écoutons un peu ici la réponse du président Obama.
And then there's Donald Trump. The Donald is not really a plans guy. He's not really a facts guy either.
Donc, il pense que vraiment M. Donald Trump ne représente pas les valeurs intrinsèques de l'Amérique et qu'il y a un grand danger de le voir accéder à la présidence. Ce n'est pas le cas avec Hillary Clinton. Et ce qui est formidable, quand on pense qu'il y a 8 ans, c'était les plus grands rivaux, ensuite ils sont devenus les plus grands amis et il était là pour dire « mais je ne vois pas quelqu'un ». Le plus qualifié pour occuper ce poste que j'ai occupé moi pendant 8 ans, que ce soit son mari Bill Clinton ou moi-même.
But Hillary's been in the room. She's been part of those decisions. She knows.
Alors, Idrissa Sédoudia, le président Obama a bien préparé le terrain, si l'on peut ainsi dire, pour le discours phare de ce jeudi, celui de Madame Clinton.
Il a bien réussi dans ce domaine et il s'agit maintenant de savoir si vraiment Hillary Clinton pourra faire mieux.
Merci Idrissa.
Merci Gabi et à la prochaine.
Idrissa Sédoudia, envoyé spécial de VOA Afrique à la Convention démocrate à Philadelphie, en Pennsylvanie.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ici Chérubin Gaby Dorsil. Nous avons dû suspendre momentanément la diffusion du journal Le Monde aujourd'hui dû à une situation technique imprévue. Dans quelques secondes, nous allons reprendre nos émissions habituelles.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.